Radio de la Paix.
Dossier.
La littérature, qu'il s'agisse de romans, de poèmes ou d'essais, est bien plus qu'une simple distraction. Elle offre une multitude de bienfaits qui vont au-delà du simple plaisir de la lecture. Depuis des siècles, les livres ont nourri l'esprit humain, façonné les cultures et enrichi les individus de manière profonde et durable. Perpétuer cette nourriture de l'esprit implique mener des actions concrètes et appétissantes. Et le Festival du Livre, initié à San Pedro, s'inscrit parmi les mets susceptibles de nourrir l'esprit humain. Le dossier de Radio de la Paix se propose de feuilleter les pages écrites par la première édition du Festival du Livre de San Pedro, le Festil. Présentation Kofi Benson. Le Festival du Livre de San Pedro s'affiche comme un carrefour des passionnés de lecture. Vitrine de la littérature, le Festival du Livre de San Pedro est un pont entre histoire et jeunesse s'il est mis en œuvre selon Neke Bernard, écrivain et commissaire général du Festival du Livre de San Pedro, Festil SP.
Il y a beaucoup de festivals ici, mais les festivals culturels en rapport avec la littérature, il n'y en a pas. Donc il fallait combler ce vide. L'objectif, c'est la promotion du livre auprès des élèves, des étudiants, mais auprès de la population. Nous sommes dit, les librairies sont là quand les parents y vont ou les élèves y vont, c'est pour acheter des manuels qui sont au programme. Mais rarement, on va vers le livre. Donc il faut déjà commencer à bâtir les lecteurs de demain. Donc le festival va nous permettre de susciter l'émulation. Et surtout, il y a un ensemble de personnes qui aiment bien la littérature, qui souhaitent peut-être faire éditer des livres, raconter leur histoire à travers un roman, à travers des nouvelles, écrire de la poésie. Et il est important que nous puissions ouvrir cette lucarne pour qu'au cours de ce festival, les écrivains étant présents, les maisons d'édition étant présentes, ça facilite le contact et puis ça peut ouvrir les rêves.
Rêver à travers la créativité, développer des talents et s'engager dans la production littéraire nécessite un appui. Et les éditions L'Armatan Côte d'Ivoire font de l'accompagnement des écrivains une priorité. Étienne François est le directeur des éditions L'Armatan Côte d'Ivoire.
Pour nous, c'est un impératif d'accompagner tous nos auteurs et tout projet allant dans le sens de la structuration de la pensée universelle pour permettre à tous ceux qui ont des observations, qui ont l'expérience, l'expertise à partager, de mettre à la disposition du monde, non seulement du monde scientifique, mais du citoyen lambda. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes là pour accompagner Neke qui est notre auteur et aussi encourager tous ceux qui ont envie d'écrire.
Est-ce que tout le monde peut écrire?
Oui et non. Oui, parce que chacun de nous a quelque chose à produire. Nous sommes tous dotés de talents. Il faut les révéler. C'est des talents à niveler et des talents à mettre en exergue. C'est possible. Non, parce qu'on ne peut pas écrire si on n'a pas été un bon lecteur. La synthèse, c'est qu'on peut avoir la volonté et combiner les deux. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes venus avec le livre de François Dacinda, comme écrire un roman guide pratique pour les débutants. Il suffit de le vouloir parce qu'il y a la volonté, il y a la méthodologie et la méthode. Si on a ces éléments, il est évident que forcément on peut réussir à le faire. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut écrire. Notre rôle, c'est d'accompagner de façon positive l'ensemble des messages à véhiculer pour transformer le monde.
Le livre, support éducatif, joue un rôle important dans la formation des jeunes esprits. Écrit donc pour l'humanité nécessite des dispositions. Pour Neke Bernard, commissaire général du Festival du Livre de San Pedro, il faut faire la part des choses entre un écrivain et quelqu'un qui écrit.
Tout le monde peut écrire, mais peut-être tout le monde ne peut pas être écrivain. On peut être auteur et puis ne pas être écrivain. Par exemple, vous faites ressortir les particularités culturelles de San Pedro. Vous êtes auteur. Mais l'écrivain, lui, il va au-delà des faits qu'il va raconter. Il va faire parler les lettres, il va les faire vivre, il va installer le beau dedans. Et c'est là qu'on trouve la littérature. S'il n'y a pas de littérarité dans la chose, on ne va pas atteindre le côté écrivain en tant que tel.
Lire des romans permet de se mettre à la place des personnages, d'explorer des émotions, des réactions qui ont été un déclic pour Neke Bernard sur la route de l'écriture.
L'idée d'écrire est venue depuis ma classe de 3e, au contact de Amadou Koné, un grand écrivain qui a écrit les phrases de Binto. Lors d'un café littéraire, il était venu dans notre établissement. L'ouvrage que j'avais lu, qui était au programme, il était question du jeune Binto qui avait perdu Monique. Et puis il y a Mireille qui l'a aimé, qui était allé en Europe. Et l'histoire, elle nous a laissé sur notre fin. Donc j'ai levé la main, j'ai posé la question. Pourquoi n'écris pas la suite? Il m'a dit, tu veux que la suite? Donc vas-y. Je ne sais pas si c'est ce qui a peut-être motivé de manière inconsciente cela, mais Dieu prépare tout un chacun à certains exercices de certaines professions, etc. Donc j'ai eu l'occasion de croiser Étienne Dade de Matan et nous avons lancé le premier ouvrage, était Mes vers profanes, et ensuite le roman La Balafrée. Et depuis ce temps, les choses se succèdent. Donc je pense que je suis en train de réaliser l'un de mes rêves parce que j'avais voulu être en même temps pilote, être être médecin, être pharmacien, être journaliste, à travers la plume, je peux remplir, à travers mes personnages, toutes ces fonctions et toutes ces professions.
Et le Festival du Livre pourrait être également un élément déclencheur de la jeunesse qui aujourd'hui s'éloigne du livre avec la profusion des nouvelles technologies de l'information et de la communication, selon Kwame Kwaku, directeur régional de la culture et de la francophonie à San Pedro.
Tous les festivals auxquels on a eu droit ici sont des festivals patrimoniaux. Et pour la première fois, nous accueillons un festival qui est centré sur le livre. Nous ne l'ignorons. Le livre, c'est l'insigne clé de la connaissance. En consacrant ce festival au livre, je crois que les promoteurs veulent mettre le doigt sur l'une des faiblesses de notre système éducatif actuellement, avec l'importance qu'a prise l'éthique dans nos sociétés. Les enfants et la population en général a pris un peu sa distance par rapport à la lecture. Or, on ne peut pas avancer sans chercher les clés de la connaissance. Il nous appartient de faire en sorte à mener ce combat pour récupérer ceux qui n'ont pas encore compris l'importance de la lecture.
On le sent hein, dans ce que vous dites, la jeunesse n'aime pas lire, c'est ce que vous voulez dire?
Oui, la jeunesse n'aime pas lire, plusieurs raisons l'expliquent. Il y a l'environnement, on est dans une société où l'image prime. Certains même qui affirment de façon prosaïque qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Or, ils ne savent pas que l'image est fugace et ne capte pas véritablement la chose. Alors qu'avec la lecture, on prend le temps de sélectionner ce qu'on lit, on insiste là-dessus et puis on intègre véritablement ce qu'on lit. Donc ne pas lire, c'est s'éloigner de son bonheur.
Colonel des Eaux et Forêts, Yo Maka Madeleine, épouse Oulayi, est écrivain. Elle pense également que la jeunesse a du mal à se connecter au livre.
Aujourd'hui, les jeunes sont plutôt connectés. Le téléphone, la télévision, c'est l'été qui les occupe. Alors que la littérature, c'est comme un entretien de la mémoire. Si vous n'entretenez pas la mémoire, eh bien la mémoire tombe en désuétude. Donc lire, c'est important.
Pour Étienne François, directeur des éditions L'Armatan Côte d'Ivoire, l'influence des nouvelles technologies de l'information et de la communication ne doit pas être un frein à la lecture.
La question de savoir si la jeunesse lit ou pas est une question, je dis, ambivalente. D'une part oui, d'autre part non. Aujourd'hui, le livre étant un support de décision, un support d'enseignement, on ne peut pas dire que le livre n'est pas lu. C'est vrai, il y a l'influence d'éthique, mais il appartient à tout un chacun du plan conscient, notamment les parents, de savoir que si je veux que mon enfant soit excellent, il faudrait que moi, je donne l'exemple de ce que je suis un lecteur. Aujourd'hui, nous sommes envahis par les réseaux sociaux, par des situations que nous ne maîtrisons pas parce que ça va très vite. Or, consigner un écrit, une pensée dans un ouvrage, c'est éternel. C'est pour ça que nous contribuons à rendre des écrivains et auteurs de façon immortelle. De sorte que nous qui n'avons pas connu Platon, Socrate hier, aujourd'hui, nous avons des Néké, nous avons des Francis Ndard, nous avons des Timakers, nous avons des Maurice Bandama. Et c'est là notre rôle de perpétuer leur pensée et leur permettre de rentrer dans la conscience populaire et faire du livre, un ami, une chérie et un compagnon de la vie.
Le Festival du Livre, c'est permettre aux jeunes de découvrir des auteurs et des livres qui n'auraient pas nécessairement eu l'occasion de rencontrer dans leur quotidien. Ainsi, une exposition de livres avec certains auteurs était des moments d'échange avec les élèves et parents d'élèves.
Si ben, il y a une grâce.
Mais là, qu'est-ce que tu fais?
Je regarde un roman. J'ai pas l'argent.
Mais est-ce que tu aimes lire?
Oui. Il y en a souvent.
Souvent, c'est-à-dire un roman par an ou bien c'est un roman par mois?
Un roman par semaine.
Qu'est-ce que tu as déjà lu?
L'ordonnance.
Qui a écrit?
C'est Soro Gefala.
Alors aujourd'hui, nous assistons à la première édition du Festival du Livre à San Pedro. Est-ce que tu as déjà participé à un tel festival?
Non.
Et qu'est-ce que tu penses du festival?
C'est une bonne initiative parce que ça va permettre aux élèves d'apprendre et de connaître plusieurs romans et d'apprendre aussi à lire.
Travailler, Marianne.
Tu lis combien de romans ou livres par mois?
Au moins 10 comme ça par mois.
Pourquoi tu aimes bien lire?
C'est pas, c'est ma passion.
Comment est venue cette passion?
Comme on n'aime pas regarder la télé, à cela j'aime lire.
Ah, tu n'aimes pas regarder la télé? Pourquoi?
Il n'y a jamais bonne série qui passe. Il y a toujours la division.
Oui, bonjour, je veux 2 livres pour ma fille de 6e.
Pourquoi vous avez demandé 2 livres?
Honnêtement, elle aime lire, donc je pense que chaque fois que j'ai une occasion de payer des livres, je paye pour qu'elle lise parce que le livre, c'est important. Tout ce qu'on a dans la vie se trouve dans les livres. Donc forcément, si on lit beaucoup, on est intelligent et puis ça permet aux enfants de bien évoluer à l'école. Et j'ai fait l'expérience heureuse avec ma fille qui est brillante à l'école. Elle lit beaucoup, ça va. Donc je pense que c'est important de lui offrir beaucoup de livres que de lui offrir des tablettes, des choses qui ne vont pas forcément lui apporter grandes choses.
Et quand tu as fini de lire, elle vous fait un point?
Oui. Elle lit, elle fait le résumé et puis ensemble on voit. En tout cas, c'est très bon.
Si vous avez un conseil à donner...
Je demande à tous les parents d'offrir des livres aux enfants. Je pense que c'est intéressant parce que le livre, si c'est bien entretenu, on garde pour les générations à venir. Donc on paye pour une. L'année prochaine, les années à venir, l'autre peut lire. Et puis ça y est, là, ça y est dans une bibliothèque. Le papa même peut utiliser pour se souvenir de certains événements de la vie. Donc tous les parents doivent pouvoir donner des livres à leurs enfants.
Ces propos sont de Sokwame, venu au festival pour l'achat de livres pour sa fille. Comme pour dire que chacun à son niveau peut contribuer à l'éveil des consciences à travers le livre. Car le livre développe la pensée critique d'enrichir son vocabulaire, d'améliorer sa capacité linguistique, de développer la compréhension et l'analyse. Et pour certains écrivains, notamment le colonel Ziomaka Madeleine, la lecture de la nature est une source d'inspiration.
L'environnement naturel surtout, ça donne de l'inspiration. Quand je vais dans la forêt et que je regarde la forêt vivre, l'eau vive, ben je suis inspiré. C'est ce qui est à l'origine de ma passion pour la littérature.
La forêt vive, je ne comprends pas.
Ah bon, la forêt vive. Le frissonnement doux des feuilles, c'est la vie de la nature, c'est la vie de la forêt.
Comment vous savez que le frissonnement est doux?
Quand vous quittez ces bitumes et que vous rentrez dans une forêt, vous voyez nettement la différence. Ça donne de la fraîcheur au corps et le vent qui remue les feuilles, ben, ça donne un doux frissonnement. Écoutez et vous allez entendre la vie de la forêt, la voix de la forêt.
Vous êtes colonel, vous êtes femme et vous écrivez. Quel est le conseil que vous donnez aux jeunes filles aujourd'hui?
Aux jeunes filles, je dirais que on parle du droit de la femme, c'est vrai. Mais si on te donne ton droit et que tu ne sais pas utiliser, tu n'as plus de droit. C'est une pêche qu'on nous tend. Nous devons pouvoir la saisir et nous épanouir avec la pêche qu'on nous donne.
En clair, une femme peut faire beaucoup de bonnes choses, tout comme les hommes.
Une femme peut faire beaucoup de bonnes choses. Aux Zoé Forêt, je le dis souvent aux jeunes filles qui rentrent, nous avons été les pionnières. Si nous avions été femmes et lettres, on n'allait jamais prendre de femmes aux Zoé Forêt parce qu'ils vont se dire, mais on les prend et puis elles ne nous démontrent pas leur valeur. Mais nous avons fait l'effort pour faire la même chose que les hommes, pour démontrer que nous pouvons faire autant que les hommes. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à prendre les femmes aux Zoé Forêt et dans d'autres corps. Donc, les femmes doivent savoir que la tête qui est là, même s'il y a beaucoup de cheveux, elle n'est pas différente de celle d'un homme.
Le livre est une passerelle vers la connaissance historique. De nombreux auteurs et historiens l'utilisent pour partager leurs connaissances et retracer les grands événements qui ont marqué la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général. Et la participation du professeur Kofi Toubo, enseignant-chercheur ivoirien diplômé des universités d'Abidjan, de Sao Paulo et de la Sorbonne au Nouvelle-Paris 3, et membre du comité scientifique du projet La Route de l'Esclave de Côte d'Ivoire est captivante.
Partout il y a le livre, il y a la richesse. Je suis là pour participer à ce festival, apporter ma contribution et également faire connaître la thématique sur laquelle j'ai créé et qui est essentiellement portée sur le projet de la roue de l'esclave, c'est-à-dire des personnes mises en esclavage.
Aujourd'hui, quand on parle d'esclaves, on voit plutôt le Sénégal, on ne voit pas trop la Côte d'Ivoire. La réalité est tout autre, à vous entendre.
Oui, tout à fait, la réalité est tout autre. La Côte d'Ivoire est un pays qui a été profondément impacté par l'esclavage, à tout point de vue. La Côte d'Ivoire a une véritable roue de l'esclave avec plusieurs pistes fluviales, plusieurs pistes terrestres. Il y a la piste du Bandama, il y a la piste du Boubo, il y a la piste du Go, il y a la piste du Sassandra, la piste du Cavali. Nous avons même la piste qui débouche sur Krendiabo. Vous voyez, quand les Michael Jackson, les Jesse Jackson viennent en Côte d'Ivoire et qui disent que leurs parents sont originaires de la Côte d'Ivoire, qu'eux-mêmes sont ivoireux descendants, ce n'est pas fortuit. Aujourd'hui, nous avons la cartographie mondiale de l'ADN. Vous êtes aujourd'hui capable de faire analyser votre sang et, grâce à l'avancée technique et technologique, savoir d'où venaient vos aïeux. Donc beaucoup d'Américains ont aujourd'hui la preuve de ce que leurs aïeux sont venus de Côte d'Ivoire. Beaucoup de Mexicains, Cubains, d'Antillais, beaucoup de Brésiliens, de Colombiens, beaucoup d'Uruguayens ont la preuve de ce que leurs aïeux sont venus de Côte d'Ivoire. Et donc nous devons faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse récolter aussi des dividendes, comme le Sénégal en récolte avec l'île de Gorée, le Bénin avec Ouida, le Ghana avec Elmina. Nous sommes en train de travailler à cela. Les recherches ont été faites sur le terrain. terrain et les deux bouquins que j'ai fait sortir, le premier en 2021 et
intitulé
Africanisme et africanité au Brésil, dans lequel je démontre de façon scientifique l'impact que l'esclavage a eu sur l'univers linguistique au Brésil, c'est-à-dire comment des mots de nos langues ont pu s'introduire et être empruntés de façon indélébile dans la langue portugaise du Brésil, et les africanités, c'est-à-dire les us et coutumes de chez nous qui se sont intégrés là-bas et qui font désormais partie intégrante de l'écosystème culturel brésilien. Quand je dis de chez nous, de l'Afrique, voilà, je veux parler de la samba, je veux parler de la capoeira, du maracatu, de l'art culinaire. Et donc les africanités prennent en compte le volet linguistique et puis le volet culturel. Et puis celui que je viens de sortir et qui s'intitule Stigmate lexico de la traite négrière en Côte d'Ivoire, c'est un livre dans lequel je démontre comment les langues des négriers, c'est-à-dire les portugais, les anglais et les hollandais, comment ces langues-là ont pu impacter nos langues, comment des mots portugais ont été empruntés par le baoulé, par l'agni, par le bété, par le dida, par le senufo, etc., etc. Par exemple, le mot pão. En baoulé, ça veut dire le pain. C'est un mot portugais, pão. Par exemple, quand le dida dit bloca pour indiquer la serrure, ça vient de l'anglais, tout là, quand le baoulé dit soukrou. Soukrou, c'est anglais. Quand le bété dit tchoché, pour parler de l'église, ça, c'est un anglicisme.
Les agni parlent de basket.
Basket, bicycle. Les agni, même, parlent de alaka. Arca, ça veut dire caisse en portugais. Les premiers négriers qui sont apparus sur nos côtes, c'était en 1462, de la région d'Assini, c'était les portugais. Le premier s'appelait Soeiro da Costa. Après ça, il y a eu surtout les hollandais qui ont pratiqué l'esclavage ici, chez nous. Leur plus grand port négrier, c'était le port de la Ukmanda. Jusqu'en 1760, ils ont transporté de là plus de 51 000 captifs. San Pedro est une conséquence palpable de la traite négrière. Parce que quand on prend le mot San Pedro, ce n'est pas un mot Nyané, Tepo, c'est pas un mot Bakoué non plus. Ce sont les négriers qui ont donné ce nom. Quand vous prenez Sassandra, c'est exactement la même chose. Quand vous prenez Fresco, c'est pas un mot de chez nous. Le nom Godier de Fresco, c'est Koyri. Mais personne ne connaît Koyri parce que les négriers ont voulu que cette localité soit appelée Fresco parce qu'il y avait de l'air très frais. C'était les Portugais. Même au niveau hydronymique, le mot Cavali est un emprunt lexical d'origine portugaise. En regardant la configuration environnementale de la région qui donnait l'impression d'une crinière de cheval. Restinga de cavalo, cavalo, cavalo est devenu cavali. Quand vous prenez le banc d'amarre, parce que les Portugais perdaient beaucoup d'embarcations là, à cause du phénomène là-bas, ils ont souffert là, ils ont dit cette région est un rivage dangereux, cruel. Et c'est ça, banc d'amarre. Et banc d'amarre est resté et aujourd'hui le fleuve s'appelle banc d'amarre. Donc je démontre comment ces mots-là ont pu se fondre dans le moule phonologique de nos langues locales pour démontrer par A plus B que la Côte d'Ivoire a été impactée par l'esclavage et nous devons faire en sorte que notre pays compte. Il faut lustrer l'image de la Côte d'Ivoire, faire en sorte que nous ayons de la visibilité pour que demain, quand les pays seront dédommagés, la Côte d'Ivoire puisse en bénéficier aussi.
Pour le professeur Kofi Toubo, le livre est un moyen idéal pour transmettre l'héritage culturel et historique à la nouvelle génération.
Partout où on parle de livre, partout où on parle de jeunesse, nous sommes présents parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est la jeunesse. Hein. Donc nous devons écrire pour contribuer à la formation et à l'information de la jeunesse sur la thématique cachée dont les gens ont peut-être un peu honte, mais c'est une réalité tangible. Il faut que nous puissions faire de la vulgarisation. Nous avons une véritable route de l'esclave. Depuis le fleuve Cavali jusqu'à la Bia là-bas, à la frontière ghanéenne, nous avons plus de sites que tous ces pays la réunis.
Le Festival du Livre de San Pedro, avec la présence d'écrivains venus de France, s'affiche en Festival international du livre. Jean-Célestin Djangé, journaliste, sociologue, historien, essayiste, écrivain, vivant à Paris, se dit satisfait de ce bref passage à San Pedro à la faveur du Festival du Livre.
J'ai décidé de venir soutenir ce premier festival parce que les initiatives culturelles sont en fait des initiatives qui permettent de mieux valoriser notre continent, de mieux mettre en exergue ce que le continent a de plus cher, d'essentiel en fait à sa composition. Cette œuvre qui, à mon avis, est forcément appelée à devenir pérenne, parce que qui dit premier festival dit forcément deuxième, troisième, quatrième. Donc je rentre à Paris avec le cœur en paix et l'esprit plein de bonnes choses.
Parlant de bonnes choses, c'était certes le festival, mais il y a également la découverte de San Pedro. Qu'est-ce que vous avez remarqué ?
J'ai eu la chance en tout cas de visiter d'abord le secteur portuaire. J'ai eu la chance de visiter aussi la fameuse grotte des Amoureux. Le rocher, il est formidable. On a vraiment l'impression qu'il y a deux corps qui s'entrelacent pour ne former qu'un. Et c'est peut-être aussi ça, aussi l'un des symboles forts de San Pedro. J'ai découvert cette commune qui est une magnifique station balnéaire, pratiquement comme la ville de Kribi. Kribi, c'est au Cameroun, qui est aussi une station balnéaire avec les mêmes atouts, la plage, la mer, de beaux bâtiments et puis l'esprit très très convivial. Je repars satisfait avec la ferme conviction que la deuxième édition sera encore meilleure que cette première.
Rendez-vous donc pour la deuxième édition du Festival du Livre, un lieu privilégié pour la rencontre entre le passé, le présent et l'avenir. Et la jeunesse doit l'utiliser comme un terrain fertile pour éveiller sa conscience et sa curiosité. Car le livre ne se contente pas de divertir, il est aussi un véritable vecteur d'histoire. Ce dossier a été réalisé et présenté par Kofi Benson.
C'était Radio de la Paix. Dossier.